Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Giron dans l'émission La fille à la fenêtre, une émission féministe qui parle de littérature écrite par des femmes. Un jour, je me suis retrouvée à discuter d'avortement avec deux hommes. Quand j'ai voulu, en me basant sur mon expérience, leur dire que ce n'était pas obligatoirement traumatisant, ils se sont tous deux insurgés avec vigueur pour me dire, comme s'ils savaient mieux que moi, qui ai pourtant avorté, que traumatisant ça l'était, l'avortement. Alors je me suis tue devant tant de convictions, alors que ces deux hommes parlaient d'une chose qu'ils n'avaient pas vécue, et moi si. Plus tard dans ma vie, après avoir compris que j'étais lesbienne, je me suis retrouvée face à une personne hétérosexuelle qui, d'un air de connivence, m'a déclaré que « on se fiche de savoir avec qui quelqu'un ou quelqu'une couche ». Techniquement, oui, je me fiche de savoir avec quel individu quelqu'un ou quelqu'une couche. Mais le genre des personnes avec qui je couche fait que j'ai une expérience du monde radicalement différente d'une personne hétérosexuelle. Et je le sais bien, car j'ai aussi été longtemps hétérosexuelle. Une personne hétérosexuelle n'a jamais à se soucier de savoir comment la personne en face d'elle va réagir quand il ou elle lui parle de sa vie sexuelle ou amoureuse. Une personne hétérosexuelle n'a jamais à s'inquiéter d'être moquée, humiliée, méprisée, agressée, ou alors objectifiée, regardée comme un animal de zoo, à cause de sa sexualité. Donc non, on s'en fiche pas de savoir avec qui quelqu'un ou quelqu'une couche. C'est quelque chose qui touche profondément à l'expérience et au soi, et c'est quelque chose qui a aussi une dimension politique. Nous vivons dans un monde où les rapports de domination entre les personnes font que nos expériences sont souvent niées, tues, déformées par les autres, ou alors minimisées par nous-mêmes, même si ces expériences sont très graves, comme on va le voir dans cette émission. Aujourd'hui, on va lire des extraits d'un livre d'une autrice qui s'appelle Ruth Kluger. Ruth Kluger est née en 1931 à Vienne, en Autriche. Elle a été déportée avec sa mère en 1942 parce qu'elle était juive. À l'âge de 11 ans, à Theresienstadt, puis à Auschwitz, puis dans le camp de travail de Christianstadt. De là, elle est parvenue à s'enfuir, donc toujours avec sa mère, en février 1945, pendant l'évacuation du camp. En 1947, elles ont émigré aux États-Unis. Ruth Kluger a poursuivi ses études à New York, puis à Berkeley en Californie. Elle est devenue professeure d'université et critique littéraire. Sur sa vie, elle a écrit deux livres, « Refus de témoigner » et « Perdu en chemin ». Nous allons lire des extraits du premier livre, « Refus de témoigner ». Son titre en allemand, c'est « Weiterleben », ce qui veut dire « continuer à vivre ». Il a paru en 1992 en allemand et en 1997 en français, aux éditions Viviane Ami. Et il a été traduit par Jeanne Ettore. Les extraits qu'on va lire évoquent l'arrivée de Ruth Kluger aux États-Unis à la fin des années 40, donc après la guerre.
Melancholie produktiv, yeah. Nutz den Moment, weil es sie nie wieder gibt. Ich feed ja den Beat als den Teppich der Sprache. Die Bedeutung ist real wie der Dreck auf der Straße. Vergesst alle Phrasen, komm, wir fangen bei Null an. Richte dein Haupt auf und entspann deine Schultern. Du musst nicht dark sein, es sei denn du bist es. Werd ich so ehrlich wie möglich, weil alles andere beschiss ist. Verdammt, ich glaub an kein Business, ich glaube an mich. Wie man's auch dreht, ich bin mir meiner Vertrautheit immer gewiss. Komm, wir probieren's, lass uns kommunizieren. Äußer dich, ich äußer mich, wie auf Tonnen Papier. Jedes Wort findet Gehör, jede Silbe ihren Raum. Integrieren Bedeutung, denn wir können ihr trauen. Schenk mir Vokabeln, ich will sie ins Weg leiden. Nur durch deine Lesart kann ich diesen Text schreiben. Die Line wird unentdeckt bleiben, wenn niemand sie hört. So würde niemand beglückt, aber auch niemand verstört. Also raus damit, ich bau auf dich. Du schützt das Wort vorm Verlauf ins Nichts. Löcher mich mit Fragen, wer, wie, was, wo. Aber tritt mit mir in den Dialog. Yeah. Sag mir, wie erreich ich dich? Yeah. Ohne dich zu sehen, schau ich in dein Gesicht. Was du hörst, ist wahr, ich verkleid mich nicht. Ich bin einig mit dir, wenn du dir einig bist. Sag mir, wie erreich ich dich? Yeah. Ohne dich zu sehen, schau ich in dein Gesicht. Was du hörst, ist wahr, ich bescheiß dich nicht. Ich bin einig mit dir, wenn du dir einig bist. Sag mir, wie erreich ich dich? Yeah. Ohne dich zu sehen, schau ich in dein Gesicht. Was du hörst, ist wahr, ich verkleid mich nicht. Ich bin einig mit dir, wenn du dir einig bist. Sag mir, wie erreich ich dich? Yeah. Ohne dich zu sehen, schau ich in dein Gesicht. Was du hörst, ist wahr, ich bescheiß dich nicht. Ich bin einig mit dir, wenn du dir einig bist.
J'avais toujours vécu entourée de femmes. Cela n'allait pas changer à New York. Dans la famille, dans les camps, même après la guerre, les hommes n'avaient jamais été qu'en marge. Certes, sur cette marge, ils gouvernaient, et à partir de là, ils régnaient même sur nous. Et ma mère voulait à tout prix m'inculquer qu'une femme devait se marier et se faire entretenir. Mais elle m'a donné un tout autre exemple. Du début de l'époque hitlérienne jusqu'au moment où je suis partie, elle restait seule. Je l'ai connue libre. Elle travaillait. Sous le régime hitlérien, ces hommes n'avaient rien pu faire et avaient péri. À la fin des années 40, avec un peu d'esprit d'initiative, n'importe qui pouvait réussir, à condition que ce n'importe qui soit de sexe masculin et eût la peau blanche. On définissait le marché du travail comme un marché offrant des possibilités infinies, sans préciser pour les hommes blancs. Les quotas et les barrières furent supprimés pour les juifs, alors que les femmes étaient de plus en plus indésirables et qu'on les reléguait au travail de bureau. Il a fallu attendre le mouvement féministe de la fin des années 60 pour qu'on soulève le problème de ces restrictions. À l'époque, elles furent admises sans mot dire. Ce dont on ne parle pas et qu'on n'écrit pas n'est jamais réglé. L'incapacité des femmes à réussir dans des professions de haut niveau passait pour une chose établie. Et l'inverse était considéré aussi comme une chose établie, à savoir que les femmes qui travaillaient avaient du mal à trouver un mari. Une personne que je connais me raconte qu'alors qu'elle cherchait un patron de thèse, elle a été éconduite par un professeur qui lui a dit « Pourquoi avez-vous besoin d'un doctorat ? Vous n'êtes pas mal faite ?» Et il croyait me faire un compliment, ajoute-t-elle, stupéfaite et offensée. Combien d'entre nous se sont mariés trop tôt ? Tout simplement parce qu'il semblait qu'il n'y avait rien de meilleur à faire. Le Hunter College était le pendant féminin du City College of New York, de même que Barnard était celui de Columbia. Les étudiants du CCNY, le City College of New York, étaient ambitieux et résolument tournés vers l'avenir. Ils se préparaient à une véritable carrière. Chez nous, on pouvait choisir comme matière principale Home Economics, une matière qui préparait les étudiantes à l'économie ménagère et à la maternité. Nous chantions certes, nous les Hunter Girls, lors des assemblées obligatoires, notre college song. Fame throughout the white world is the wish of every Hunter daughter's true. Pardon pour l'accent. La célébrité de par le monde entier, au Hunter College, toutes ont ce souhait. Mais nous le chantions avec mépris, comme une chanson stupide, car nous savions que nous avions le choix entre devenir institutrice, bibliothécaire, assistante sociale ou femme d'intérieur, et qu'aucune de ces activités ne menait à la gloire. le Hunter College était quelque chose d'intermédiaire entre le lycée pour les filles de famille moyenne, non pas de très bonne famille, et une véritable école supérieure, et le niveau me paraissait en conséquence un mélange d'enfantillage, avec par exemple la gymnastique artistique et les cours d'hygiène obligatoires, et des cours de littérature passionnants, donnés par des professeurs hommes ou femmes d'excellente qualité. Les professeurs femmes. Nous avions pour modèle des femmes, avantage non négligeable. Je n'aurais sans doute jamais osé envisager par la suite une carrière universitaire si ce n'était pas des femmes qui m'avaient fait lire Shakespeare et Faulkner au Hunter College. J'écrivais maintenant des poèmes en anglais. C'était tantôt des exercices de style, tantôt le reflet du travail du deuil, formule que je ne connaissais pas encore. Pour finir, j'obtins 2 prix de la section d'anglais, l'un à un concours de poésie. Quelques années plus tard, ils m'ont aidé à compenser les mauvaises notes que j'avais ailleurs et ont facilité mon admission de graduate student à Berkeley, dispensée du paiement des droits. Les vêtements, les chaussures, les manières de cette nouvelle société me mettaient mal à l'aise. Ma mère parlait avec dégoût des femmes et des jeunes filles qui ne pensaient que chiffon. J'étais bien d'accord. Je voulais m'habiller de façon à ne pas me faire remarquer en dépensant pour cela le moins d'argent possible, parce que nous n'en avions pas. Suivant la bonne vieille tradition des émigrés à New York, nous achetions nos vêtements dans les magasins bon marché de Union Square. Avant la guerre, ma mère avait été une femme sportive et élégante. Elle avait repris son allure. Au début, je lui faisais confiance, mais j'eus bientôt quelques doutes. Elle me forçait à mettre des robes de petite fille pour lesquelles j'étais beaucoup trop grande. On m'acheta un sac à bandoulière avec un petit fermoir en métal doré qui représentait un cheval. Une veste rouge pour aller avec une robe rouge, mais les deux rouges n'étaient pas les mêmes. Je savais bien que ça n'allait pas, mais je ne savais pas ce qui serait allé. « Le rouge va avec tout », avait-elle dit. Mes cheveux poussaient dans tous les sens, et aucune permanente ne pouvait en venir à bout. Dans les années 60, mon fils a considéré comme un bienfait de la nature l'épaisse tresse qu'il avait héritée de moi, mais à la fin des années 40, une chevelure pareille correspondait trop bien à l'image que les émigrés anciens se faisaient de moi. Lorsque je demandais à ma mère de m'aider à régler ce problème, elle se moqua de moi. « Peigne-toi plus souvent, » dit-elle, ce qui me mit dans une fureur noire. De même qu'enfant, elle me couvrait de baisers et me giflait alternativement. Maintenant, elle me couvrait de compliments et, sans transition, critiquait on ne peut plus violemment mon allure physique. Tantôt, elle m'assurait que j'étais infiniment jolie. Tantôt, elle me disait que je devrais me donner plus de mal pour trouver un mari. L'une et l'autre chose me semblaient aussi déplacées et m'étaient aussi désagréables. Ma mère s'efforçait systématiquement de se rajeunir. Elle le fait toujours. Et elle se rajeunit toujours de 6 ans, très exactement les années de guerre, au cours desquelles elle ne veut pas avoir vieilli. À ses yeux, j'étais l'enfant pensive, peut-être même la pauvre enfant, qui, moitié inconsciente et ignorante, avait subi les années du nazisme. J'étais un accessoire, tout au plus un personnage secondaire de son drame. Sa propriété, son bien. L'un des rêves qu'elle fait souvent et qu'elle me présente comme un témoignage d'amour maternel se déroule de la façon suivante. Une chambre de malade, moi allongée dans le lit, elle debout à côté, pleine de pitié pour moi. Elle prend plaisir à le raconter. Elle étouffe tous les élans, verse de l'acide sur les plaies. Quand elle disait « Tu es tout pour moi », ne voulait-elle pas dire qu'il ne fallait pas que je grandisse, que je lui échappe ? Mais il est vrai aussi qu'elle n'avait pas grand-chose d'autre que moi. L'Holocauste était un événement qui avait existé, mais l'expression et la notion n'existaient pas encore. On savait qu'entre autres, un grand nombre de Juifs étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu attendre le début des années 70 pour que le terme entre dans l'usage et définisse précisément la chose. Il ne m'importe guère de savoir si le terme hébreu « Shoah » convient mieux comme on le prétend depuis peu. Pourvu qu'il y ait un mot qu'on puisse utiliser sans détour et sans circonvolution. Car les mots simples, qui figurent avec leur définition dans le dictionnaire, sans parler des grands mots, délimitent les choses et fournissent un cadre à la pensée. Sans quoi, il faudrait expliquer à chaque fois de quoi il est question, et l'interlocuteur n'écoute pas toujours. Il est parfois ailleurs par la pensée, ou bien il cherche la dispute. Il croit qu'on veut lui faire la leçon, et se raccroche précisément au détour, à la circonvolution. Le directeur de notre collège, qui portait un nom allemand, Schuster, même s'il avait perdu la marque du C devant le H, prit violemment position contre les procès de Nuremberg dans un de ses discours. Les vainqueurs avaient certes le pouvoir, mais non pas le droit légitime de condamner les vaincus pour les crimes commis pendant la guerre. Je connaissais d'Allemagne cet argument apparemment fondamental et apparemment fondé sur le sens de la justice. Peut-être avait-on pu éluder la différence entre crime de guerre et crime contre l'humanité lorsqu'on ne l'avait pas vécu et tant que Hannah Arendt ne l'avait pas décortiqué. Mais ce qui était impardonnable chez ce monsieur Schuster, c'était de parler sans tenir compte le moins du monde de son public. Ne pas se soucier de savoir que les Hunter Girls étaient en majorité juives et qu'une bonne partie d'entre elles étaient des réfugiés d'Europe. Ou bien voulait-il précisément nous imposer ses opinions à nous, pour qui les procès de Nuremberg n'étaient pas simplement un acte de vengeance contre une poignée de nazis, mais le premier examen public de l'Holocauste. Je ne fus certainement pas la seule à être heurtée. Nos professeurs nous parlaient du Blitz en Angleterre, mais aucun et aucune ne demanda à la classe s'il y avait là quelqu'un qui avait vécu les bombardements. On jetait un voile sur notre expérience. Des années plus tard, je suis mariée à un historien qui enseigne l'histoire de l'Europe à Berkeley. Il en arrive à l'époque hitlérienne. Je lui demande s'il ne veut pas que pendant un cours je parle des camps à ses étudiants. Quelque chose change dans son visage. Une grille se ferme devant ses yeux, ou plus exactement un pont-levis se lève. On entend le crissement des chaînes, au-dessous une eau stagnante, vert jaune, pleine d'algues. Je m'apprête à dire que je n'ai quand même pas proposé de faire une séance de striptease à l'université, mais je me dis qu'il ne faut pas lui faire de reproches. Il est ancien combattant de cette guerre, où ils ont assuré la victoire, du bien, sur le mal. Nous étions comme des malades atteints d'un cancer, qui aurait rappelé à ceux qui étaient en bonne santé que eux aussi étaient mortels. Il me raconte souvent qu'il a eu très froid au cours de cet hiver 1944-1945. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit que j'avais moi-même vécu ce rude hiver dont il était question, sans les bonnes couvertures, les vêtements chauds et les rations alimentaires suffisantes de l'armée américaine, et que je l'ai donc aussi très précisément en mémoire. Il est décontenancé parce que je lui sers des souvenirs qui font concurrence aux siens. Là, j'ai appris que la guerre était l'affaire des hommes. On mettait en garde les nouveaux arrivants contre les agressions dans la rue. On leur indiquait où et quand il valait mieux ne pas aller. Le ton baveux et confidentiel sur lequel on parlait des risques que couraient les jeunes filles me déplaisait. « Surtout à Central Park, nous disait-on, et surtout après le coucher du soleil. » Les hommes exposaient ces risques spécifiquement réservés au sexe faible avec une certaine fierté de ces débordements de leur propre virilité. Moi aussi je pourrais, je sais bien que très facilement. Toi, toute jeune fille, tu ne peux pas te rendre compte exactement. Comme si le problème résidait uniquement dans la plus grande faiblesse innée de la musculature féminine et non pas dans la perversité de la violence qui s'abat toujours sur les plus faibles, et à laquelle la morale de l'esprit chevaleresque ne sert que de camouflage, un mince camouflage qui plus est, ainsi que l'avait montré la guerre. Cela me gênait beaucoup que ceux qui nous mettaient en garde se montrent si tolérants à l'égard des criminels, comme si les hommes faisaient certes du mal, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais uniquement parce qu'ils étaient des hommes, et si les femmes, de par leur faiblesse naturelle, devraient s'en remettre à la magnanimité de ces hommes, qu'elles ne devaient pas provoquer, ni mettre à l'épreuve. On aurait dit qu'il fallait remercier d'avoir été laissés tranquilles ceux qui nous mettaient en garde. Je m'apprêtais à dire que j'avais déjà couru des risques plus terribles qu'en allant me promener dans New York. Je l'avais sur le bout de la langue, mais cela n'était pas souhaitable à cause de l'insolence, et c'était de toute façon illogique, voire superstitieux, car on n'écarte pas les risques présents grâce à ceux qu'on a déjà surmontés. Toutefois, ces gens n'auraient-ils pas pu songer que j'étais certes nouvellement arrivée dans ce pays, mais que l'ABC de la violence ne m'était pas totalement inconnu ? Dans le même ordre d'idées, il y avait le numéro tatoué qu'on n'aimait pas voir. Symbole d'asservissement, disait-on. Tu devrais te le faire enlever. Symbole de la capacité de vivre, dis-je, car à partir du moment où je n'avais plus eu besoin de me renier moi-même et de cacher mon nom, ne plus devoir cacher le numéro d'Auschwitz avait fait partie aussi de la libération. Maintenant, c'est devenu plus facile, me dites-vous. Il y a tout un tas de méthodes, dites-vous encore. Le laser est recommandé. Peut-être que je le ferai enlever un jour, ça peut changer. J'ai encore une marge de manœuvre. Qui vous donne le droit de vous promener comme un monument ambulant ? Me demande un juif plus âgé. Dita aussi s'est entendue dire qu'en continuant de laisser visible ce numéro, elle voulait imposer aux autres des sentiments de culpabilité. Ne devrait-il pas essayer d'analyser pourquoi la vue de ces numéros déclenche une telle agressivité de leur part ? Que devons-nous alors penser quand vous jurez de ne jamais oublier sans qu'on vous le demande ? Dita approuve de la tête. Il y a quelque chose qui s'attache à ce numéro, un morceau de vie et une énorme part de mémoire. Il revêt une signification à plusieurs niveaux. D'un autre côté, il y a les puristes bien-pensants de la génération suivante. Quand on porte un numéro comme ça, me dit la fille d'un ancien déporté de Buchenwald, il ne faut pas le cacher, avec des bracelets ou autres. Pourquoi pas ? On peut vouloir des choses différentes à des moments différents. Pourquoi ces règles, qui, comme toute forme de contrainte, devraient pourtant être suspectes ? C'est comme les noms de mariage, une fois qu'on a divorcé. Certains veulent s'en défaire, d'autres les garder. D'un point de vue moral, le choix me semble neutre. Quand j'étais serveuse, les clients me demandaient souvent ce que c'était que ce numéro. Je ne pouvais m'empêcher de rire à la pensée qu'ils ne sachent pas ou fassent semblant de ne pas le savoir, parce que ce n'est pas entre les cuisines et une table de bistrot qu'on donne ce genre d'explication. Pour me débarrasser de la question, je disais parfois que c'était le numéro de téléphone de mon petit ami, mon boyfriend. Il en a de la chance, dit un client. Je vois d'ici mes lecteurs éberlués secouer la tête. Je vous demande pardon. J'étais libre, je pouvais dire ce que je voulais, je m'en réjouissais. J'ai vu aussi des gens qui avaient des fantasmes de bordel me demander si j'avais été violée. Alors je répondais non, mais ils ont failli me tuer, et j'expliquais donc la notion de souillure raciale, parce qu'il me paraît intéressant qu'un aussi mauvais principe ait été un moyen de protection assez efficace pour les Juives, même s'il ne l'a pas été totalement. Si l'intérêt faiblissait, on savait que cette question intime avait été posée pour satisfaire une curiosité malsaine. Il y a une pornographie concentrationnaire, l'idée du pouvoir absolu sur l'autre éveille la lubricité. Qu'on t'interroge ou non, observe un lecteur avec un hochement de tête, tu n'es jamais contente. Je ne pouvais pas non plus m'empêcher de rire lorsque les gens me submergeaient de leur conception d'une vie de femme, d'une vie d'enfant, sans y regarder de plus près. Moi qui n'ai jamais eu de parapluie, sans doute parce que ça fait partie de l'éducation bourgeoise dont j'ai été privée, et moi qui suis habituée à sortir sous la pluie sans rien sur la tête, un homme, un Allemand, qui m'offre galamment son parapluie pour m'abriter, me dit que si je n'en ai pas, c'est sans doute que je me suis toujours fait abriter par des messieurs, et il est tout content de sa plaisanterie médiocre. J'enregistre la scène, dans ma tête, sous la même rubrique que celle où j'ai classé le pédiatre américain qui s'étonnait que mes enfants en bas âge m'aient transmis la varicelle. Comment je ne l'avais pas attrapé, enfant ? Alors j'avais dû avoir une enfance bien protégée. A sheltered childhood. Ma pire maladie infantile n'a pas été la varicelle, mais la peur de la mort. Ce sentiment d'être enfermé dans une cage, qui, à New York, s'est inversé en son contraire, la tentation de la mort à travers la dépression. Car là, le passé s'est vraiment ranimé et il s'est étendu comme un désert derrière moi. Nous avions été comme les cavaliers sur le lac de Constance, ne voyant qu'après coup la masse d'eau qui a failli les engloutir. Je trouvais que je n'avais aucune valeur. Je me voyais à travers un regard étranger et j'avais parfois le sentiment de n'avoir pas été libérée, mais de m'être échappée en rampant, comme une punaise quand on enfume la maison. Certes, cette image n'était que la répercussion a posteriori de la propagande nazie, mais à une époque qui dévalorisait les femmes, il était tout naturel de se dévaloriser aussi. J'étais fermement persuadée, bien que les hommes le contestent curieusement, que les femmes avaient plus de vitalité que les hommes. Mais elles avaient aussi moins de valeur. Que nos morts aient été des hommes signifiait donc aussi que ceux qui avaient eu le plus de valeur dans la famille n'étaient plus en vie. J'avais maintenant atteint l'âge de mon frère et je serais bientôt plus âgée. Mon inutilité. J'aurais bien aimé être un homme et si possible, pas juif. Au cours de cette première année, je fus intérieurement en proie à un malaise assez indéfinissable qui gagnait du terrain. On appelle aujourd'hui ce type de phénomène le choc des cultures, l'adaptation à un autre pays. L'un des symptômes était mon angoisse pathologique des fréquents examens de routine au collège. Il m'obsédait. Pendant des jours et des jours auparavant, j'étais incapable de penser à autre chose, et je m'en tirais souvent assez mal, même quand j'y étais bien préparée. C'est la raison pour laquelle ma mère m'envoya chez Ladzi Fessler. Il était psychiatre, et il avait été très bon ami avec mon père. Ça ne pouvait que me faire du bien de parler avec lui. Je n'avais aucune idée de ce que fait en réalité un psychiatre. Je savais seulement qu'il s'occupait de nerfs et des états de crise. Il me parut raisonnable de penser que quelqu'un comme ça pourrait m'aider à démêler mes différents problèmes.
Waves.
Vous êtes de retour sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre. On lit toujours des extraits de Refus de témoigner de Ruth Kluger. Tu vois, disais-je à mon père, tu n'as jamais eu d'amis. En tout cas, pas ce que j'appellerais des amis. Je lui en voulais, parce que pendant quelques semaines, il s'était réincarné en la personne d'un psychiatre qui n'était pas très fin psychologue. Ce Lazy Fessler avait invité ma mère à dîner une ou deux fois. Elle avait dû lui parler de nous et lui donner l'impression que j'étais une enfant difficile avec qui il fallait avoir beaucoup de patience. Au contraire, moi, je considérais évidemment que j'étais une fille particulièrement peu exigeante. Peut-être ma mère aurait-elle eu envie de l'épouser. Il était célibataire. Le sacrifice pour une fille est la même chose que le sacrifice pour un mari. Le principe reste le même. Il épousa ensuite une Américaine. J'ai entendu ma mère dire plus d'une fois que face aux Américaines, elle n'avait aucune chance. Il avait un cabinet qui marchait bien au centre de Manhattan, car la psychiatrie était une spécialité où l'accent autrichien inspirait confiance. La psychanalyse austro-sauvage, qui faisait fureur à New York à cette époque, se gardait de toute critique sociale et évitait d'établir le lien entre le mal psychique et le mal historique. Car on voulait avant tout fuir cet excès d'histoire que l'on avait enfin réussi à laisser derrière soi. Toutes les souffrances psychiques prenaient leur source en soi-même. Rien ne venait du dehors. Dita aussi, pendant ses études d'infirmière, consulta une psychothérapeute au sujet des cauchemars qu'elle faisait. Et cette personne lui dit que le camp de concentration n'avait pu laisser en elle de traces significatives parce qu'elle avait plus de 6 ans quand elle y avait été. Suivant cette logique, lui ai-je dit froidement, les camps de concentration n'auraient causé de troubles psychologiques à personne, car les enfants de moins de 6 ans n'avaient pratiquement aucune chance de survie. Mais était-ce la vérité ou l'offense délibérée qu'on recherchait ? Car il y avait aussi l'opinion contraire, à savoir que quand on sortait des camps, on était à jamais incurable. Lorsqu'elle fit pour la première fois sa demande d'entrée dans une nursing school, donc une école d'infirmières, et de surcroît dans un hôpital juif, la candidature de Dita fut rejetée. On ne dissimula pas la raison à sa tante et à ma mère. Quelqu'un qui avait été en camp de concentration ne pouvait pas faire le métier d'infirmière. Ce qu'elle avait subi compromettrait sa capacité à s'occuper des patients. Juste pour que vous sachiez qui vous êtes. J'allais donc un soir au cabinet de M. Fessler, croyant en fait que cette adresse sur la 5e avenue était son domicile. Il ne m'a jamais invité dans son appartement, cet ami de mon père, alors qu'il est venu dans notre misérable logis. Et cette fois-là déjà, il avait cru bon de me reprendre. Je ne sais plus pour quelle raison. Peut-être simplement parce que je me mêlais de la conversation, au lieu de rester là assise, en souriant. Je ne m'attendais pas à une réprimande de la part de ce monsieur inconnu, et cela déclencha en moi la même réaction de nervosité que quelques mois auparavant, quand je déchirais du papier pendant les cours à l'université de Ratisbonne, parce que, sans que je me l'avoue, ses professeurs, membres du clergé, me faisaient peur. Cette fois, je fis des tresses avec les franges de la nappe, ce qu'il me reprocha immédiatement, disant que c'était incorrect, comme s'il était correct de me réprimander alors qu'il était chez moi. En dépit de cette licence, il ne me tutoyait pas, ce que j'aurais pourtant interprété comme un signe d'affection, puisque je n'avais que 16 ans et que mon père avait prétendument été son ami. Ma mère ne disait rien, elle écoutait avec un sourire fatigué, ce qui revenait à lui donner raison et à le confirmer dans le rôle de père répressif qu'il s'arrogeait. Après cette première rencontre, j'aurais pu me demander si c'était la personne idéale pour résoudre mes problèmes. Ce que je comprends un peu aujourd'hui, mais que je ne saisissais pas encore à l'époque, c'était que ces hommes avaient leur propre vision des choses. La catastrophe juive était pour eux une humiliation. Non pas le martyr tragique qu'on en a fait depuis. Les juifs ne se laissent plus gazer, proclame un Israélien de choc dans un film populaire avant de frapper. Le public se réjouit, les critiques citent la formule. C'était ça qu'ils avaient contre nous, l'oncle, l'Adzi, tous. Nous étions les mères qu'ils avaient abandonnées, les femmes et les enfants qu'en tant qu'hommes, ils auraient dû protéger. Tandis que moi, sur une toute autre longueur d'onde, j'aurais voulu partager leurs souvenirs. Et ils ne voulaient pas me laisser y accéder. Au fond, je voulais qu'ils me redonnent mon père, je voulais trouver des gens qui, d'une certaine manière, puissent le remplacer. C'était une ultime tentative pour le retrouver quand même. Mais c'était trop demandé. Pourtant, ces hommes avaient la même intonation que lui. J'avais encore le son de sa voix dans l'oreille. Nous parlions en allemand. À l'époque, c'était plus facile pour moi, pour lui aussi peut-être. Je ne me souviens pas de son anglais. Je lui racontais mes difficultés au collège. Je n'avais pas de mal à apprendre, dans cette langue qui n'était pas la mienne. Ça allait à peu près. Pas merveilleusement, mais cela devenait de jour en jour plus aisé. Et malgré ça, j'avais une peur panique de ces maudits examens, alors qu'ils n'étaient même pas difficiles. Il me demanda si j'avais des amis. « Pas encore. Pas un vrai cercle d'amis, » répondis-je d'un air sombre. C'était le premier semestre. Il faut un peu de temps. Il avait trouvé son point d'ancrage. Mon refus de m'adapter, mon orgueil. « Non, non, » dis-je, cherchant à repousser le reproche. « Je ne suis pas arrogante. En fait, je n'ai pas encore compris qu'ici, ce n'est pas moi qui dis qui je suis. » En toute confiance, je raconte à ce Ladzi Fessler ce qui se passe à la maison. Les heurts constants avec ma mère, qui trouve toujours à redire ce que je fais, ne me laisse pas une minute en paix et porte un jugement négatif sur chacun de mes actes. Quand elle a des visites, elle ne me permet pas de me retirer discrètement. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place dans notre appartement, mais il y a quand même deux pièces. Elle se moque de moi devant ses hôtes, et quand je dis qu'il faut que je travaille, que j'étudie, elle s'empresse d'objecter qu'étudier n'est pas travailler, que je ne travaille pas. C'est elle qui travaille pour moi. C'est pourquoi je n'aime pas trop rester avec elle et je sors le plus souvent possible. Je vais à la bibliothèque, au musée, me promener. Elle prétend que je lis trop de livres et voudrait que je me trouve un boyfriend attitré, avec qui je sortirai. Ce dont je n'ai pour ma part aucune envie. Et si j'en choisissais un, elle ne lui trouverait que des défauts. Du reste, au Hunter College, nous n'avions guère l'occasion d'entrer en contact avec des hommes. Il a fallu attendre un peu plus tard. Pour moi, ça a été une bonne chose. Mon équilibre psychique était déjà assez menacé. Je dis aussi qu'elle interprétait tout à mon désavantage. Elle prenait une plaisanterie au sérieux, accordait un poids qu'il ne fallait pas à une remarque sans importance. Ce que je disais s'en trouvait déformé de telle sorte que je n'avais plus envie de parler avec elle, ce qui de nouveau la contrariait. Elle cherchait des secrets là où il n'y en avait pas. Que me conseillait-il pour apporter un meilleur équilibre à cette vie commune ? Auparavant, je m'étais promis de lui en imposer en parlant objectivement, sans larmoyer, en conservant la maîtrise de moi, je ferais preuve d'une pensée claire. Car si j'arrivais à effacer la première mauvaise impression qu'il avait eue de moi quand il était venu nous voir, il serait peut-être plus disposé à des conversations personnelles. Par exemple, il me dirait peut-être son amitié avec mon père, à quoi mon père s'intéressait quand il était étudiant. Des questions de ce genre. Le médecin était assis derrière un immense bureau, qui me parut sans doute encore plus grand qu'il n'était, et il me pria de m'asseoir sur une chaise, face à lui, légèrement sur le côté, dans le coin de la pièce, à la plus grande distance possible de lui. Je n'avais pas remarqué que mes considérations objectives le mettaient de plus en plus en colère, et j'eus donc l'impression de recevoir une gifle lorsqu'il dit, pour décharger sa bile, avec une indignation réelle ou feinte, « Vous prenez votre mère pour une vache ?» Je peux citer la formule exacte parce qu'elle était totalement inattendue. Rien ne m'était plus étranger que d'insulter un être humain en le traitant d'animal, et surtout pas ma mère. Précisément à cause des camps, j'étais très sensible aux grossièretés du langage. J'avais tendance à prendre la langue aux mots. En Autriche, on dit souvent quand quelqu'un vous énerve, que le diable l'emporte. Je crois entendre une véritable malédiction et je cherche tout de suite dans les parages le chaudron de sorcière où nagerait une boucle de cheveux ou une paire de chaussettes de la victime pour que le mauvais sort s'accomplisse. Je ne pensais pas que ma mère fût bête. Il avait tort de m'attribuer cette idée. Je flairais le danger. Les malentendus se multipliaient manifestement. Or, ma question avait été justement de savoir « Pourquoi tous ces malentendus ?» La séance était terminée. J'appris les règles du jeu, l'histoire des 50 minutes, ni plus ni moins. Je repartis avec un devoir à faire à la maison. La semaine suivante, il faudrait que je confesse mes défauts. Et il m'énuméra ce que j'aurais à confesser. Vanité, orgueil, absence de respect. Ils étaient la raison de mon manque de contact, qui engendrait à son tour l'angoisse, par exemple celle des examens. Je ne me reconnaissais pas dans ce diagnostic. Je m'efforçais pourtant, pendant des jours, de m'y reconnaître. Plus je réfléchissais, plus j'étais troublée. Peut-être avait-il raison d'une certaine façon, et je ne le comprenais pas. À la séance suivante, j'expliquais pourquoi on pouvait me croire orgueilleuse, alors que je ne l'étais pas. Je m'acharnais à expliquer que j'avais des difficultés avec ma mère. Il se fâcha. Je sentais au fond de la gorge l'angoisse de ne plus pouvoir, en définitive, me fier à moi-même. Je me tus et le laissai me sermonner. « Vous avez vu de quoi vous avez l'air ? » dit-il brusquement. « Regardez-vous un peu. » Il montrait une glace. Je m'y regardais, docilement, sincèrement stupéfaite. Je portais encore mon manteau allemand. Il n'était certes pas très à la mode, mais on n'achète pas un manteau neuf quand on en a encore un qui est portable. J'étais un peu décoiffée, certes, mais il faisait du vent dehors. Ça suffisait à mettre les cheveux en désordre. Cette maison, fit-il observer d'un ton sévère, est fréquentée par des dames de la meilleure société. Qu'allait-elle penser ? À cette heure du jour, il n'y avait personne, me dis-je en silence. M'avait-il précisément fixé une heure si tardive parce qu'il avait honte pour moi ? Ma négligence vestimentaire était un signe de mépris de l'entourage. L'ignorance et la pauvreté, il n'en tenait aucun compte. Je sortais de son cabinet blessé et humilié, ravalant mes larmes. « Pourquoi pleurez-vous ? » me demanda-t-il, avec ce que je crus interpréter comme un air de triomphe. Si je me donnais la peine de ne pas montrer mon chagrin, il n'avait pas à m'interroger là-dessus, me dis-je, et je niais mes larmes. Sur le chemin du retour, je lui concédais par la pensée qu'il voulait certes m'améliorer, faire de moi un être meilleur, mais non pas m'aider à mieux m'en tirer à New York. Il m'avait prié de ne pas revenir sans quelque chose sur la tête. Un chapeau me semblait, et me semble toujours, l'accessoire le moins utile dont on puisse affubler, sauf quand il fait froid. En l'occurrence, il n'était pas question de la température, mais de la civilisation, représentée en la circonstance par la mode. J'achetais le couvre-chef le moins cher que je trouvais, un bonnet. Il était bleu, ciel ou rose. Chez Woolworth pour 80 cents. J'estimais que même ça, c'était du gaspillage. Je mis le bonnet et je retournai chez lui. « Qu'est-ce que la conscience ?» lui ai-je demandé. Car je voulais lui dire que les morts me posaient problème, parce que j'étais en vie. Mais je ne voulais pas l'avouer directement, parce que ça faisait grandiloquent, et qu'il ne me croirait pas, s'il me jugeait tellement égoïste. Au début, j'aurais bien aimé lui montrer mes poèmes. Il contenait les mots que j'avais trouvés pour ça, et il ne m'en a pas fourni de meilleurs. Même pas la formule de travail du deuil. Il n'a été question des camps qu'une seule fois, comme si moi je n'y avais jamais été, uniquement ma mère. Il ne m'a jamais apporté de réponse à ma question. Tu vois. Je n'avais qu'une idée, échapper à ces entretiens qui m'anéantissaient. Il détruit ce qui en moi dit « je ». Je commençais à me montrer extrêmement prudente dans le choix de ce que je lui livrais ou passais sous silence. Et il s'impatientait de ma réserve. Il me dit que je lui faisais perdre un temps précieux, $10 la séance qu'il m'accordait gratis. Il se passa alors deux choses. Premièrement, je ne crus pas la somme qu'il m'indiquait. Il ment, pensais-je tout simplement. Il ne peut quand même pas gagner en 4 heures la même chose que ma mère en une semaine. Deuxièmement, ces pénibles séances se révélaient une sorte d'aumône, chiffrable en dollars. Or, on n'est jamais forcé d'accepter une aumône. J'aurais dû m'appeler pour qu'il me donne un nouveau rendez-vous, je m'abstins de le faire. Le téléphone sonne, c'est à nouveau lui. Que peut-il encore vouloir ? Savoir pourquoi je ne viens plus. Il insiste pour que je lui assure qu'il m'a rendu service. Je le fais, je mens, ça m'est égal, je ne lui dois rien. Surtout pas la vérité. Il fait pression sur moi, oui. Les examens me posent moins de problèmes maintenant. En fait, je n'avais pas eu d'examen depuis la dernière séance. Il me demande que je lui exprime des remerciements. Pourquoi pas ? Je remercie. Je n'ai plus jamais porté le bonnet de chez Woolworth et je poursuis tête nue mes promenades de nuit dans Manhattan. Je me demandais si on pouvait se noyer dans un fleuve comme l'Hudson quand on avait appris à nager dans un fleuve comme le Danube. Je me disais aussi que l'Hudson était très sale. Je trébuchais ainsi de jour en jour, traînant avec moi mon instabilité psychique et mes idées de suicide. Apprendre était un remède, lire une planche de salut. Cela dura encore un certain temps. Les états dépressifs ont aussi leur bon côté. Ils offrent un moyen sûr contre la peur de la mort. Ou bien on a peur de disparaître, ou bien on le souhaite, au contraire. Les deux à la fois, ce n'est pas possible. Cette maladie infantile était donc surmontée. L'une a guéri l'autre. Une cure de cheval, certes, mais on reste vacciné, même par la suite. Il y aura encore des états dépressifs, je m'y attends. Mais la peur de la mort peut gâcher la vie si fondamentalement que je préfère parfois tourner en rond, pendant des jours, dans un état de léthargie, avec le sentiment de bouger, ne serait-ce que le petit doigt, n'a absolument aucun sens. À quel point ce monsieur Fessler m'a marqué ? Je ne suis allée le voir que 3 ou 4 fois, et il est mort depuis longtemps. Pourtant, j'éprouve toujours cette aversion profonde. Je me révolte à chaque fois que je pense à lui, alors que j'ai un souvenir reconnaissant de certains enseignants du collège, aujourd'hui disparus, qui n'ont rien fait d'autre pour moi que m'enseigner quelque chose. Ladie Fessler, c'était pour moi, mais l'idée me vient seulement maintenant, comme si les nazis avaient accédé à une autorité intellectuelle qu'ils n'avaient jamais eue à mes yeux en Allemagne. Il y avait là quelqu'un qui ne m'accordait aucune valeur. Et cela n'implique-t-il pas la mort, une condamnation à mort, et dont le timbre ressemblait pourtant à celui de mon père ? Le pire, c'est qu'il me déniait mes capacités d'amitié.
Just one.
à Vermont, on pouvait suivre des cours d'été qui étaient pris en compte par le Hunter College. L'été 1949, au foyer d'étudiantes, je partageais une chambre avec une fille qui ornait son lit d'animaux en peluche. C'était la mode pour souligner le côté femme-enfant, le côté tendre de leur propriétaire. Celle-ci était une représentante typique des années 50 à venir. Son but était de trouver un bon parti et de devenir une bonne maîtresse de maison, ce qui n'est pas déshonorant, mais ce n'était pas mon genre. À sa question pour savoir de quelle nationalité j'étais, je donnais la seule réponse possible et dis être juive, née en Autriche. Alors j'étais tout simplement autrichienne, constata-t-elle. Ma confession n'avait rien à voir avec ma nationalité. Rien, ai-je dû concéder. Depuis que la guerre était finie, je pouvais me procurer un passeport autrichien. Il y avait néanmoins une différence. À quoi elle répond, avec les œillères de l'américaine tolérante et par-dessus le marché fier de sa connaissance de la Constitution. On ne raisonne pas comme ça aux États-Unis. Chez nous, l'Église et l'État sont séparés. Je réplique avec une impatience frisant le désespoir. Je sais bien, c'est pour ça que je suis ici. J'espère même, dans quelques années, obtenir la nationalité américaine. J'ai fait la demande et j'ai déjà les first papers. Comme elle était pleine de bonne volonté, je m'abstins de lui expliquer pourquoi j'avais laissé tomber l'étudiant avec qui elle était parvenue à me persuader de sortir. Il m'avait raconté que ses camarades et lui avaient abattu des prisonniers de guerre allemands quand il était trop compliqué de les faire suivre. Comme je réagis négativement et qu'il ne s'y attendait pas, il reconnut que c'était une infraction, mais uniquement aux règles d'Eisenhower. Il restait quand même un héros. Je me retirais dans la jolie bibliothèque, même si elle n'était pas très bien pourvue. Je composais des poèmes en anglais, lisais ma ration de vers bien équilibrée d'Alexander Pope et la prose cinglante de Jonathan Swift pour les cours. En fait, au milieu de ces éclatants jardins de la Nouvelle-Angleterre, j'avais l'impression de me retrouver transportée dans le jardin de l'hôpital juif de Vienne, seulement cette fois par ma propre faute. Et je me demandais si par hasard, Ladzi Fessler n'aurait quand même pas eu raison et établi le bon diagnostic lorsqu'il attribuait le manque de contact extérieur dont je souffrais à ma vanité et à ma conviction de tout savoir mieux que les autres. J'écrivis une charmante lettre à l'oncle et à la tante de New York. Je ne reçus pas de réponse. J'imaginais qu'ils avaient rejeté cette tentative d'approche comme un sentimentalisme sournois. J'appris ensuite qu'il y avait là d'autres étudiantes du Hunter College. J'allais les trouver. Mon fils dit « C'était comment entre vous quatre? Je vous vois assises ensemble, comme dans un film en noir et blanc. Vous fumez des cigarettes et vous riez beaucoup. » Il veut dire par là que cette amitié préhistorique manque de profondeur et de nuances, car tout ce qui s'est déroulé avant notre naissance, avant le film en couleur, n'est-il pas préhistorique? Qu'aviez-vous donc en commun? En fait, vous êtes quand même assez différentes. Les cigarettes, auxquelles nous avons renoncé depuis longtemps, l'affligent. Lui qui est sportif, fanatique de l'hygiène de vie, surtout lorsqu'il apprend que ce sont ses femmes, qui depuis sa plus tendre enfance font à ses yeux partie de la famille, sauf que le lien est plus intime encore, qui m'ont entraîné à fumer. Lors de notre première rencontre, Marge et Annelise étaient assises à une table du réfectoire. Elles fumaient effectivement cigarette sur cigarette, et elles étaient de bonne humeur. Je tombais au beau milieu d'une querelle théologique. Elles s'étaient inscrites à un séminaire sur le Nouveau Testament. Elles se coupaient la parole sans se gêner, affirmation et contre-affirmation. « Tu ne m'écoutes pas, mais si, tu te trompes. » Marge et Annelise étaient juives, même si elles étaient en même temps des chrétiennes appliquées, bien que sceptiques, se torturant constamment elles-mêmes en remettant en cause les motivations de leur conversion. C'était une nouvelle longueur d'onde, un terrain inconnu de moi. Je me départissais en silence des préjugés que m'avaient laissés mes origines libérales, éclairées, où l'on considérait les juifs orthodoxes comme des fanatiques dépassés et les convertis comme des assimilés dépourvus de caractère. C'était comme si j'avais quitté sous la table une paire de bas filets. Pourvu que personne ne s'aperçoive que tu les portais. Elles avaient loué à trois une chambre, en dehors du foyer. Et lorsque vous m'avez invité à vous suivre chez vous, je savais que je n'y trouverais pas d'animaux en peluche. Nous y avons trouvé Simone, que vous avez éveillée par un tir d'oreiller bien envoyé, pour qu'elle fît ma connaissance, et parce que, d'après vous, elle ne dormait que par paresse. Étudiante en mathématiques, elle n'avait pas tant à lire et à écrire que nous. Simone était la plus introvertie et la plus réservée de nous quatre. Elle était contrariée d'être réveillée, mais elle se montra pleine de gentillesse à mon égard, avec la politesse naturelle qui est la sienne, produit du respect et de l'amour du prochain. Elles me prirent et me laissèrent être telle que j'étais. Je resterai donc avec elles. Annelise dit que la première chose que les gens remarquent chez elle est qu'elle a une canne et qu'elle boite. Pour moi, ce n'est pas vrai. Je sais très bien que ce ne fut pas la première chose. Venant d'Allemagne, j'étais de toute façon habituée à la vue d'infirmes, victimes des bombardements. La première chose que j'ai ressentie, c'est un champ magnétique. Je veux dire que j'ai d'emblée souhaité être des vôtres. J'aurais voulu les avoir connues déjà à New York. J'aurais pu venir et habiter avec elles. En outre, cela m'aurait coûté moins cher. Depuis cet été à Vermont, 40 ans se sont écoulés. Les gens de notre génération sont peu à peu atteints de maladies dont ils meurent, c'est pourquoi il ne faut rien remettre au lendemain, et c'est aussi pourquoi nous avons loué tout récemment pendant 2 semaines un appartement à Londres, toutes les quatre, Marge et Annelise dans une chambre, Simone et moi dans l'autre. Dans notre chambre régnait un désordre rassurant, dans l'autre un actif besoin de rangement. Marge et Annelise se disputent toujours au petit déjeuner, c'est toujours le même ton, sauf qu'il ne s'agit plus du christianisme, cette fois c'est la guerre du Golfe qui fournit l'occasion. Simone et moi nous écoutons, paisiblement, dirais-je, ce que les deux autres contesteraient vivement. Je me dis, en me réjouissant en silence, j'aurais quand même partagé un appartement avec elle. Réparer un manque, c'est parfois facile, et ça fait plaisir. La plupart ne sont pas réparables. Annelise, qui avait alors 25 ans, était notre modèle. Toute petite, ses parents l'avaient envoyée de Francfort dans un sanatorium de Suisse romande, atteinte d'un mal qui se soignerait quelques années plus tard par des antibiotiques. Nous avions l'une et l'autre une enfance qui dépasse les capacités de l'imagination. La maladie, comparable à une prison, on aurait pu croire que je saurais me représenter la chose ainsi, mais je ne pouvais pas imaginer qu'on grandisse et qu'on prenne de l'âge couché dans un lit. Je manquerais des détails sans prêter attention aux réponses, ou je ne les retenais pas. De sorte que je devais poser à nouveau la même question. Ne pas se lever pendant des années, puis se lever, puis de nouveau rester des années au lit. Une situation contre nature, dit Annelise, devient naturelle à partir du moment où, là on se trouve, elle est normale. Je le sais par moi-même, à cause des camps. Mais l'immobilité restait un vide frustrant. Je ne l'appréhendais qu'à tâtons. J'essayais sincèrement de me le représenter, mais j'arrivais à peine. Je n'arrivais pas vraiment à m'imaginer dans cette situation. Je réagissais un peu comme les autres réagissent au camp, ce que je prends souvent assez mal. J'apprenais péniblement ce qu'on apprend en amitié. Descendre son propre fardeau de sur son dos et le transformer, en s'en servant comme d'un outil permettant de saisir et de comprendre, au lieu de s'essouffler à se débattre entre ses propres fils de fer barbelés. Les amis se complètent. Compléter, c'est rendre entier. Pour en avoir besoin, il faut avoir subi quelques dommages, mais à partir du moment où on en a besoin, ce n'est pas de quelqu'un qui a subi le même dommage, mais de quelqu'un qui présente d'autres avaries. Les amis comblent les lacunes, ils sont complémentaires, ils rattrapent ce qui vous manque, ils font ce qu'on a manqué de faire. Les membres de la famille n'en font pas autant, ou alors uniquement par hasard. Elles gagnaient déjà leur vie toutes les trois. Et elles n'habitaient plus à la maison. Nous étions sans père, nous n'avions pas connu nos pères, ou presque pas, et nous nous heurtions toutes à un certain nombre de problèmes avec nos mères. Nous nous tenions lieu mutuellement de parentes. Anneliese répondit à une enseignante du collège qu'elle n'avait pas le temps de faire telle ou telle chose parce qu'elle avait rendez-vous avec Simone. L'autre, avec l'assurance d'une aînée. Tu cours toujours après une amie. Tu ne vas pas passer ta vie avec elle. Anneliese, qui est devenue entre-temps une mère aux cheveux blancs et qui est la seule de nous quatre à être encore mariée, croise les mains sur sa canne comme elle le fait toujours quand une idée la préoccupe ou la contraint à se concentrer et faisant redéfiler dans sa tête les décennies avec leurs crises et leurs points les plus bas, conclut. Elle s'est trompée. J'ai bel et bien passé ma vie avec Simone. Je les ai toutes baptisées de nouveaux noms. Celui de Marge est le plus insignifiant car elle-même changeait de nom souvent. Marge s'appelait Meg avant que je la connaisse et aujourd'hui elle s'appelle Margaret. Pour nous, elle reste Marge, notre américaine qui fuyait avec le plus d'acharnement les aspects extérieurs de l'identité, ne s'était pas réfugiée dans le milieu américain moyen, mais auprès de nous, étrangères, avec nos langues étrangères et nos horizons internationaux. La mère de Marge avait déconseillé à ses deux filles de faire des études. Elle leur avait au contraire mis en tête qu'elles auraient des allures de star dès lors qu'elles se feraient refaire le nez. Il a fallu longtemps pour que l'identité juive devienne à la mode et les grands nez sur les visages de femmes ne le sont devenus nus qu'avec le célèbre profil de Barbara Streisand. Les juifs américains qui pouvaient se le permettre se faisaient redessiner le visage, surtout les femmes. La vague des nez opérés a été comme une vague de chaleur. Marge s'est exposée à cette torture volontaire dès qu'elle eut réuni les fonds nécessaires. Elle n'est pas devenue actrice de cinéma, mais bonne enseignante d'anglais dans une université canadienne, parce qu'en dépit des conseils maternels, elle a passé un doctorat. Anneliese se lamente. Marge avait un si beau visage. Maintenant, c'est un visage quelconque. C'est exagéré. La beauté d'un visage est une question de caractère, pas une question de nez. Mais elle était quand même mieux avec son nez de naissance. Marge, de son côté, déclare que personne ne lui a jamais rien dit de sa beauté, pas même Anneliese. Car elle l'aurait écoutée, affirme-t-elle, comme nous toutes. Et elle ne se serait pas fait casser l'os du nez. Elle avoue aujourd'hui avec un haussement d'épaule s'être convertie par attachement à une enseignante catholique. Simone avait été élevée comme moi dans le sionisme, seulement, contrairement à moi, elle avait marché, sérieusement. Nous n'étions pas depuis un an aux États-Unis que quand fut fondé l'État d'Israël. Ma mère exultait. Chez moi, la joie était mêlée à une certaine déception. J'avais l'impression qu'on m'avait trompée, parce que j'aurais voulu aller là-bas et que je n'avais pas pu. J'ai vu, il n'y a pas longtemps à la télévision, exactement la même expression mêlée sur les visages des ressortissants de l'ex-RDA qui avaient attendu pendant des semaines à l'ambassade de Prague et qui, dans les foyers de réfugiés d'Allemagne de l'Ouest, devaient maintenant s'habituer à l'idée que la frontière entre les deux Allemagnes était ouverte. Lorsque j'eus terminé mes études au collège, j'allais trouver les autorités compétentes pour savoir ce que je pourrais faire en Israël. On me découragea. Il y avait des cas plus importants, plus graves, sans parler des Juifs d'Europe. J'avais justement un travail ennuyeux à la section catholique de la New York Public Library, et je ne proposais rien qui, dans le nouvel État, pût être considéré comme une contribution positive, mis à part ma disponibilité. Je me demandais tristement si je devais vraiment partir si loin, tant que je n'avais pas la nationalité américaine, pour me retrouver le cas échéant en Israël, sans aucune utilité, tandis que je manquerais à ma mère, ici, aux États-Unis. Je remis à plus tard mon action sioniste, ou décidai de la remettre, au moins jusqu'au moment où j'aurai la nationalité américaine, et finalement je ne l'ai jamais menée. C'est la carence absolue qui est restée comme une plaie ouverte. Il en fut différemment pour Simone. Elle a travaillé en Israël dans les pires conditions, avec des enfants difficiles, asociaux et délinquants. Elle a mangé « institution food with flies », de la nourriture de cantine avec des mouches, déclarait sa mère londonienne en fronçant le nez, mais aussi avec une certaine fierté. Et elle n'est pas revenue aux États-Unis véritablement déçue, mais pas non plus entièrement séduite par ce pays dont les habitants se caractérisaient surtout par leur disposition à faire la guerre. même si les guerres étaient déclenchées par leurs ennemis. Ensuite, elle a abandonné le travail social, elle a appris à voler, et elle est devenue pilote. Tu vois bien, dis-je à Anne-Lise, dans un monde plus juste, elle serait tout de suite devenue pilote, car c'est ce qu'elle aime par-dessus tout. Dans ce monde masculin de merde, ce n'était pas possible à l'époque, et même aujourd'hui, ça ne l'est guère. Pourtant, répond Anne-Lise, tu sous-estimes ce que notre Simone a fait pour ses clients au fil de sa carrière, parce que tu vois partout la vie gaspillée, car c'est ce que tu cherches, pour pouvoir ensuite te tordre les mains en te lamentant à ce sujet. Je lui ai donné le prénom de Simone Veil, bien qu'elle ne sache que faire du bon Dieu. Pas plus que moi d'ailleurs. Premièrement, je ne me sens absolument pas douée pour la transcendance. Certes, je connais quelques artifices qui élèvent la conscience, la rabaissent, ou en tout cas la transposent à un autre niveau. Mais ils sont sans contenu, et constituent tout au plus un remède contre l'insomnie et la nervosité. Deuxièmement, le dieu judéo-chrétien est issu d'une structure de société qui ne me convient guère, car il y a un trop grand bond par-dessus la côte d'Adam jusqu'à ce patriarche, et je n'arrive pas à faire ce bond. Ni jusqu'à l'homme à la barbe blanche, ni jusqu'à son abstraction logocentrique. Je me regarde dans le miroir et je ne me vois pas à son image. Troisièmement, j'ai été trop tôt en des lieux où Dieu était absent. Pourtant, j'aime bien suivre la pensée théologique. J'aimerais bien déchristianiser Simone Veil, retrouver en elle la juive qu'elle a refoulée, et j'aimerais garder le mélange de la politique et d'une réflexion sur soi qui éloigne de soi. J'ai sur ma table de nuit les derniers essais et lettres de la philosophe, rédigés lorsque, revenant de New York, elle erra à Londres parce qu'elle ne pouvait pas rentrer à Paris qui était occupé. Alors, sans autre forme de procès, je donne son prénom à mon ami, l'ami athée d'origine cachère, qui a fui sa famille franco-anglaise jusqu'en Amérique. Nous évoquons parfois l'angoisse d'être sans défense. Simone dit « Tu n'es pas forcé de te laisser humilier. Ça dépend de toi, de la façon dont tu prends les choses. » Je réponds « Non, comment ça ? Au cours de n'importe quel examen gynécologique, le type peut te rabaisser par de sales remarques s'il en a envie. » Ma Simone est semblable à la philosophe dans son attitude fondamentale face à la vie. Ce qu'elle a d'incorruptible. Elle ne se laisse pas embobiner. Elle n'use pas de flatterie. Elle n'a jamais flirté. Elle ne cède pas quand on penserait qu'elle n'a pas le choix. Et elle cède tout de suite lorsque quelqu'un a besoin d'elle, lui demande. La troisième amie, je suis allée directement la trouver et je lui ai demandé « Comment veux-tu que je t'appelle dans mes souvenirs ?» Elle a répondu sans hésiter « Anne-Lise ». Parce que quand elle était dans son sanatorium suisse, impuissante certes, mais à l'abri des nazis, une jeune parente lui écrivait de temps en temps d'Allemagne pour lui demander de l'aider. Elle lui écrivait que tout le monde l'avait abandonnée, que personne ne se souciait d'elle et que ça ne pouvait que finir mal. Mon amie n'a bien évidemment rien pu faire, car elle était elle-même une enfant, dépendante et étrangère, mais dans un pays qui représentait un mythe aux yeux de celle qui était restée, et dont on croyait que ceux qui y vivaient étaient puissants. Mon amie a fini par ne plus répondre à ses lettres suppliantes. Une mise de côté bourrée de mauvaise conscience. La correspondante, plus jeune, s'appelait Anne-Lise. Elle est morte dans un camp. Mon amie est restée avec sa mauvaise conscience et l'échange de lettres interrompu. Pour moi, qui ne connais cette Anne-Lise initiale que par les quelques bribes d'informations rapportées ici, elle est un de ces pâles fantômes entre beaucoup d'autres. Et cependant, à l'époque, à New York, elle avait sa place dans cette amitié inégale entre une fille de 18 ans et une autre de 25. Et voilà que mon amie choisit précisément ce prénom. Pourtant, Anne-Lise, d'une certaine façon, c'était moi, et voilà que c'est mon amie qui le devient, avec toujours en arrière-plan la troisième Anne-Lise, la vraie, avec son legs de lettres resté inutile. C'est ainsi que nous nous mêlons et nous embrouillons. Le nom, identificateur, efface les identités. C'est la fin de cette émission. Je voulais juste dire quelques mots sur ce que le livre m'évoque, même si ça peut paraître un peu décalé. Pour moi, l'un des plus grands apports de la lutte féministe sur le plan idéologique, c'est le point de vue situé. Pour les personnes concernées par une oppression, le fait que leur expérience propre soit reconnue, légitime et à la base de la production du savoir. C'est ça le point de vue situé. Et du point de vue dominant, c'est le fait de reconnaître l'importance de l'expérience d'une personne opprimée, de ne pas parler à sa place, de ne pas produire de savoir sur elle, de ne pas en faire un objet. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail avec un tract dedans contre les réformes du gouvernement Macron, un tract qui titrait « Tous ensemble ». Mais pour être vraiment tous et toutes ensemble, il faudrait cesser de dénier aux personnes minorisées, non pas minoritaires mais minorisées dans notre espace social, il faudrait cesser de leur dénier la réalité de leur expérience. Cesser d'expliquer à qui mieux ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, ce qui est une lutte et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Et cela vaut autant pour Macron, qui ne sent pas la colère des retraités en mars 2018, que pour des militants anticapitalistes qui accusent leurs camarades de féministes ou queer ou racisés de diviser les luttes. Et cela vaut aussi pour nous, féministes, qui pouvons avoir tendance à nous complaire dans des rôles de victimes. Cela vaut aussi pour les féministes blanches qui continuent d'opprimer des personnes racisées. Ça vaut aussi pour les féministes qui nient l'importance de la lutte des personnes trans ou qui nient l'existence des personnes trans. Cela vaut aussi pour celles qui refusent de considérer le poids écrasant de l'hétéronorme et les privilèges qu'apporte le fait d'être hétérosexuel, pour ne citer que quelques exemples. Et donc, pour moi, ce texte, ce livre même, c'est un autre outil, un outil de plus pour apprendre à marcher et à lutter les unes auprès des autres, sans nier la réalité et l'importance de nos expériences. Donc, je vous dis à dans un mois. Et pour finir, on va écouter une chanson de Nina Simone qui s'appelle Pirate Jenny et qui est une chanson allemande au départ. Et les chansons qu'on a écoutées dans cette émission, c'était dans l'ordre une chanson de Suki, une rappeuse allemande, hein, la chanson s'appelait Eingangs. Ensuite une chanson de IBI qui s'appelle Waves et après une chanson de Bessie Smith qui s'appelait Muddy Waters. C'était La Fille à la Fenêtre sur la locale 97.3 à Saint-Girons. Bonne fin de soirée. You people can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night, and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window, and you say, what she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship,
The black freighter turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Now, you gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground. Only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? All the night through, through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. By noontime, the dock is a-swarming with men coming out from the ghostly freighter. Noon by the clock, and so still at the dock, you can hear foghorn miles away, and in that quiet of death, I'll say, bodies, and I'll say, that'll learn ya. And the ship, the black friend, peers out to sea, and on it is.